Leçon 7. L'enseignement.
1. Un lycée parisien. Une jeune femme, Diane Curus, a tourné en 1977 un film. Diabolomante, portrait très spirituel de deux sœurs, Frédéric et Anne, qui font leurs études dans un grand lycée parisien, le lycée Jules Ferry, au début des années 60. Dans le texte suivant, une élève de la classe de seconde décrit ce qui a changé dans ce lycée depuis l'époque du film. Je crois bien que, dans ma classe, nous sommes toutes allées voir Diabolomante. Les journaux en avaient tellement parlé, nous pensions être tout de même concernés. Le lycée Jules Ferry, je peux dire que je le connais bien, moi aussi. Depuis la sixième, cela va faire 5 années pleines. Et le film de Diane Curus, je pourrais en faire une petite version revue et corrigée. Ce que je garderai, ce que je ne garderai pas.
Par exemple, je supprimerai la rentrée scolaire et l'appel, où les professeurs s'égosillent dans la cour. Le 15 ou le 16 septembre, désormais, la journée est découpée en tranches d'heures, et chaque tranche reçoit son arrivage d'élèves. Les sixièmes à 8h15, les cinquièmes à 9h15, ainsi de suite. C'est une rentrée en douceur, bien huilée. Et du même coup, je supprimerai les petits bataillons de filles en blouse, mis en marche au coup de sifflet dans la cour. Notre lycée n'a rien de militaire, et les blouses ont disparu. Mais je me souviens de l'avoir portée, cette blouse beige pâle, en sixième et en cinquième. On l'achetait en catastrophe la veille de la rentrée et il fallait ensuite broder le nom, le prénom, la classe. Mais ma mère ne s'est pas brodée ou bien elle n'en avait pas le temps. Et en attendant une brodeuse charitable dans la famille, on écrivait mon nom au bic sur la blouse. Je suppose que cela faisait partie de l'étiquetage que Diane Curis a l'air de condamner au début du film. Cette fiche que les professeurs font remplir dès la première minute de la première classe. Mais j'avoue que je n'ai jamais ressenti cela comme une mesure policière. Je suppose que c'était bien commode pour les professeurs, pour les surveillances aussi, bien sûr, d'associer aussitôt un nom et un visage.
Donc, plus de blouse. Nos vêtements sont ce que nous avons envie qu'ils soient. C'est le jean qui nous remet en uniforme. Et les bottes que nous portons presque en plein été, à moins que ce ne soit les sabots en plein hiver. Jamais je n'ai si bien vu le lycée qu'à travers les photos du film de Diane Curus. Bravo aux photographes. La cour en forme de losange, le réfectoire sous sa coupole de verre cathédrale émergeant dans la cour, les longs couloirs jaunes et le tourbillon des escaliers. Est-ce que de son temps, on n'essayait pas de prendre les ascenseurs réservés aux professeurs? Cela fait partie des trucs, comme de se découvrir un terrible mal au ventre pour aller à l'infirmerie pendant une interro. Je ne crois pas l'avoir fait, mais je me souviens d'avoir eu de réels maux de ventre à l'idée seule d'une interro, justement. Dans l'un ou l'autre cas, je rends hommage à l'infirmerie. C'est l'endroit qui me laisse les meilleurs souvenirs. Douillet. Grâce à l'infirmière qui a une voix charmante de méridionale et mon cœur. Elle nous accueille comme une mère. Il fait un grand calme. On s'y remet à plomb.
Je me dis avec un certain regret que les chahuts monstres ont disparu. Je n'ai jamais vu une fille danser sur une table, sous l'œil désolé d'un professeur dépassé. Cela aussi, c'était donc avant ce 68 que les grands évoquent religieusement. Notre chahut, c'est plutôt cette possibilité d'éternel bavardage au fond de la classe, dans une parfaite indifférence au cours. C'est possible, évidemment, dans les classes de 30-32 élèves. Ce n'est pas possible quand on est 12 ou 15, comme en langue. Et là, nous sommes toutes d'accord, voilà ce qu'on aimerait, ne pas être plus de 15 élèves pour avoir des échanges avec le professeur. Bérengère le dit, Sylvie le dit, il n'y a pas assez de dialogue. Les professeurs poursuivent leurs idées. on les aimerait comme ci, on les aimerait comme ça, et finalement, nous nous rejoignons toutes dans la classe pour dire le prof idéal serait celle qui serait drôlement sympa, tout en ayant de l'autorité.
2. École. Quelle image ? Entre les manifestations des lycées et des étudiants de novembre-décembre 1986 et les grèves des enseignants de janvier-février 1987, l'école a une fois encore occupé, durant plusieurs semaines, le devant de la scène. Refus d'un projet de réforme de l'enseignement supérieur pour les uns, rejet d'un nouveau statut de maître directeur d'école primaire et revendication salariale pour les autres. Tels furent les principaux points qui suscitèrent colère et révolte.
Aussi brutales qu'elles furent, les secousses qui ébranlèrent le monde de l'enseignement ces derniers mois ne constituent pas un phénomène sans précédent. Depuis une vingtaine d'années, les Français savent que certaines réformes envisagées par les nombreux ministres qui se succèdent à la tête de l'éducation nationale engendrent parfois de brusques flambées de contestation. Une partie de la population elle-même n'hésite pas à descendre dans la rue, comme en 1984, les défenseurs de l'enseignement privé, lorsqu'elle considère que telle réforme éducative ne va pas dans le bon sens. À l'évidence, rien de ce qui concerne l'école n'est indifférent aux Français. Ils sont d'ailleurs souvent consultés pour faire connaître leurs sentiments en la matière.
Conscience en l'école, mais... Des sondages récents montrent que l'école est l'institution en laquelle les Français ont le plus confiance, 31%, devant l'entreprise 29% et l'armée 21%. Questionnés ensuite sur le fonctionnement des différents niveaux de l'enseignement, 62% déclarent que l'enseignement primaire fonctionne bien, 52% pensent de même pour le secondaire. Ils ne sont plus que 43% pour l'enseignement technique et seulement 35% pour l'université, 42% pour les grandes écoles.
Ces chiffres sont révélateurs de la dégradation de l'image de notre système éducatif, qui, nettement positive dans sa partie obligatoire jusqu'à 16 ans, devient ensuite négative, en particulier pour l'université, qui n'a décidément pas bonne presse dans notre pays. Il faut toutefois signaler que les Français sans opinion sur l'enseignement primaire et secondaire sont relativement peu nombreux, respectivement 13% et 21%, alors qu'ils représentent des pourcentages de 48% et 53% sur l'université et les grandes écoles.
Des reproches. Pessimistes sur le bon fonctionnement de l'université, les Français le sont également lorsqu'il s'agit d'estimer si l'enseignement actuel prépare plutôt bien ou plutôt mal à la vie professionnelle. 31% répondent « plutôt bien » et 55% « plutôt mal ».
Ils répondent massivement qu'elle ne tient pas compte de l'évolution du monde professionnel et qu'elle ne donne pas aux enseignements la possibilité de s'adapter à la diversité des élèves.
Ce reproche majeur n'est pas nouveau, mais il prend tout son sens dans la situation de crise actuelle où, malgré de récents et incontestables progrès, le taux de chômage des jeunes demeure un des plus élevés en Europe. Rappelons à cet écart que, lors des manifestations de l'automne 86, 55% des 16 à 22 ans ont déclaré avoir d'abord exprimé leur inquiétude devant un avenir professionnel pour le moins incertain.
Le monde de l'enseignement et le monde du travail continuent le plus souvent de s'ignorer. Pourtant, le rapprochement entre l'école et l'entreprise avait été amorcé dès la fin des années 70, avec les stages en entreprise instaurés par Christian Bellac, ministre de l'Éducation nationale, entre 1978 et 81. Il a été poursuivi et développé entre 1984 et 1986. En 10 mois, 10 000 établissements scolaires ont été jumelés à une entreprise.
Le bac d'abord. Ces mesures importantes n'ont à l'évidence pas convaincu les Français. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à penser que, pour réussir sa vie professionnelle, il est utile d'avoir le baccalauréat. 71% contre 25% en 1980. Ils étaient respectivement 60% et 37%. À l'issue du baccalauréat, 38% considèrent qu'il est normal que tous les élèves puissent entrer à l'université, même si on ne peut pas leur garantir un débouché. Mais 48% estiment qu'il vaudrait mieux limiter le nombre des étudiants en instaurant, par exemple, un examen d'entrée spécial à l'université. Ces jugements sont quelque peu surprenants, car ils semblent traduire une assez grande confiance dans l'université, alors que son fonctionnement est considéré comme satisfaisant par seulement 35% des personnes interrogées.
Le niveau baisse-t-il ? Aucune ambiguïté, en revanche, sur le niveau des élèves. 48% estiment qu'il va plutôt en se dégradant. Si la plupart des enseignants de français s'accordent en effet pour reconnaître que le niveau d'ensemble de leurs élèves n'est plus ce qu'il était, notamment en orthographe, leurs collègues de mathématiques font unanimement état de progrès remarquables, du moins pour certains élèves. Ceux-là seraient capables de faire en classe de seconde ce que leurs aînés faisaient naguère en terminale. Tout comme la querelle de l'inné et de l'acquis, le débat sur la baisse réelle ou supposée du niveau scolaire n'est pas près d'être clos. Alain Kimmel, vous avez dit France, achète.
Vocabulaire.
Spirituel.
Le diable mente.
La sixième.
Une version.
Un appel.
Sécosier.
Découpé.
Un arrivage.
Les sixièmes.
Ainsi de suite.
En douceur.
Huilé.
Du même coup.
Un bataillon.
La blouse.
Au coude.
Un sifflet.
Beige.
En catastrophe.
Brodé.
Une brodeuse.
Charitable.
Bic, le bic.
Un étiquetage.
Une fiche.
Ressentir.
La surveillance.
Associé.
Un jean.
Un uniforme.
À moins que.
Le sabot.
Bravo.
Le photographe.
Le losange.
Le réfectoire.
La coupole.
Émerger.
Le tourbillon.
Un truc.
Se découvrir quelque chose.
Une interro. Une interrogation.
À l'idée de.
Douillet, douillette.
Méridional, méridionaux.
S'y remettre d'aplomb.
D'aplomb.
Se dire.
Le chahut.
Monstre.
Dépassé.
Religieusement.
Éternel.
Une indifférence.
Comme ci, comme ça.
Se rejoindre.
Drôlement.
Sympa.
Une autorité.
Le devant de la scène.
La réforme.
Un rejet.
Un statut.
Le maître directeur.
Une revendication.
Salariale.
Suscité.
Brutal.
Une secousse.
Ébranlé.
Sans précédent.
Se succéder à.
L'éducation nationale.
Engendré.
Brusque.
Aussi que.
Une flambée.
La contestation.
Un défenseur.
Descendre dans la rue.
Éducatif, éducative.
Le bon sens.
À l'évidence.
Indifférent, indifférente.
En la matière.
Une institution.
Le fonctionnement.
Révélateur, révélatrice.
Dégradation.
Décidément.
Avoir bonne presse.
La diversité.
Incontestable.
Un égard.
À cet égard.
Un certain, incertaine.
S'ignorer.
Le rapprochement.
Instaurer.
Jumeler.
Le baccalauréat.
Le bac.
Une ambiguïté.
Surprenant, surprenante.
Traduire.
Se dégrader.
S'accorder.
Une orthographe.
Unanimement.
Inné.
Un acquis.
Clos, close.
Tel maître, tel valet.
Des goûts et des couleurs, il ne faut pas disputer.
Lecture. Entrée à l'ENA. Michel de Rosen, 24 ans, sera énarque l'an prochain. Bac C, mention très bien en 1968, préparation à Hoche, Versailles, puis HEC, on y vit dans un mélange d'incertitudes, parfois d'aigreur, souvent d'ennui. La plupart des élèves sont très peu passionnés par ce qu'ils font. Enfin, l'ENA. Pourquoi ?
Pour quatre raisons, répond-il. Méthodique. Je ne me sens pas le génie des affaires. Je trouve qu'en France, les entreprises n'offrent pas aux jeunes les mêmes possibilités qu'aux États-Unis, par exemple. En revanche, ceux qui passent par l'administration peuvent exercer des fonctions très intéressantes. Enfin, même si les préventions à l'égard du privé tendent à disparaître chez les responsables de l'administration, le service public reste le plus enthousiasmant.
La grande supériorité des énarques, avec l'intelligence, c'est l'agilité intellectuelle et un goût parfois déroutant pour l'autocritique. Ainsi, les diplômés de la promotion Léon Blum, sortis avant les vacances, brossent-ils d'eux-mêmes un portrait sans concession ? Oui, c'est vrai, ils sont les ultimes privilégiés d'un grand concours entre privilégiés. Oui, leur problème d'emploi est au plus un problème de carrière. Oui, ils visent implicitement tous les grands corps. Et enfin, il est exact qu'ils n'aiment guère le privé et ceux qui vont à la soupe.
Michel de Rosen tente une analyse honnête sur son cas personnel. Il se reconnaît favorisé. D'abord, par son milieu, un père dans les affaires, les centres d'intérêt familiaux, les contacts, les séjours à l'étranger, aux besoins les cours particuliers. Par son passé scolaire, un bon lycée classique, des professeurs choisis, des élèves qu'on pousse, et par son passage en grandes écoles, où tous les moyens humains et matériels sont déployés pour vous. Même avant la sortie, le phénomène de caste joue. La carte de visite vous permet d'être accueilli et, surtout, on vous écoute. Les réputations se construisent. Un tel est brillant, un tel. Mais rares sont ceux qui sont mis à jour à l'épreuve des réalités. Cela, chacun le sait. Mais la lucidité n'implique pas le changement. L'expansion septembre 1975.
Vocabulaire.
Un énarque.
Une mention.
HEC.
Une aigreur.
Méthodique.
Une prévention.
Enthousiasmant. Enthousiasmante.
Une agilité.
Déroutant. Déroutante.
Une autocritique.
Une concession.
Ultime.
Implicitement.
Déployé.
Une caste.
La lucidité.
Impliquée.